Bienvenue à la causeuse.
Salut.
Salut.
Hey.
Alors, cette semaine, la causeuse, on va laisser Jeff présenter de quoi qu'on parle, parce que c'est lui qui le sait. Que, vas-y, Jeff.
On fait ça de façon feutrée, cette semaine.
Ça ne dure pas longtemps.
Ah, et voilà.
Et voilà, ça s'est gâché. On a fait ce qu'on a pu.
Yeah, cette semaine, j'avais envie de jaser avec vous autres. J'ai appelé ça les fantaisies fondamentales dans le gaming.
Ah, j'ai le goût d'en venir comme ça, finalement.
On parle de fantaisie. Oh, yeah. Roadhouse. sérieusement?
Oui.
Non, quand même,
c'est que ça part. On recommence-tu? Fait que, hey, là,
oui.
Les fantaisies fondamentales dans le gaming, je me demandais, est-ce qu'on game toutes pour les mêmes raisons?
Non. All right, c'est tout pour la semaine.
That's it. Mm-hmm. C'est, right. c'est cool, mais mettons qu'on veut, qu'on veut un peu plus de détails, un peu plus de chair autour de l'os. Roadhouse.
Oui.
Fait que, il y en a qui pourraient dire qu'ils jouent, qu'ils game pour l'aspect social, d'autres peut-être pour l'histoire. Il y a des gens qui aiment se faire raconter des histoires dans les jeux vidéo, donc peut-être pour relaxer. Mais le sujet que j'ai envie de vous proposer, qu'on creuse un peu plus dans la partie plus reptilienne du cerveau humain. Personnellement, je passe plusieurs heures par semaine à gaming, que ce soit jeux vidéo ou jeux de rôle sur table. Puis ça fait longtemps que c'est évident que je retire pas ma satisfaction au même endroit que mes buddies avec qui je joue à des jeux vidéo. Que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de société, des jeux...
Jeux de rôle, peu importe.
J'ai pas nécessairement les mêmes lunettes, les mêmes appréciations de ce qui se passe, puis ce qui va bien moi me motiver à jouer. Ça fait longtemps que j'ai remarqué ça, mais j'en ai pas fait de cas jusqu'à temps que je tombe sur une vidéo intéressante qui en parlait. Mais je trouvais qu'il m'a fait réfléchir particulièrement aux jeux de rôle sur table. Quand je joue à D&D, ça veut pas dire la même affaire pour moi que pour mes 4-5 buddies avec qui on joue à D&D. Fait que pour moi, c'est des dizaines et des dizaines de livres achetés et lus que je n'aurais jamais utilisés. Mais je les ai lus quand même. C'est la préparation, c'est préparer des cartes, c'est préparer des scènes, c'est préparer des rencontres, c'est préparer plein de choses. Il y a beaucoup, beaucoup d'avant qui mène au pendant. Mm-hmm. Parce que les joueurs, eux autres, ils arrivent, puis leur pendant, il n'y a aucun avant, puis leur pendant est différent du mien. On n'a pas le même objectif, on n'a pas le même point de vue sur ce qui se passe. Fait que forcément, c'est différent. C'est une symétrie peut-être dans tout ça.
Forcément, dans le cas du DM versus des joueurs.
C'est pas récent, mais je suis tombé sur une vidéo sur une chaîne YouTube qui s'appelle Runehammer, qui est un créateur de plusieurs jeux de rôle indépendants, et un grand fan de théorie et de philosophie et de tout ça, avec un personnage très coloré. Je vous invite à aller écouter la vidéo, il est particulier à écouter. Puis il s'intéressait à ça, mais lui, il appelait ça le core fantasy. Puis il se disait, mais pourquoi est-ce que moi j'ai du plaisir? Puis il se sentait coupable à m'amener. J'ai investi tellement d'argent dans ce hobby-là, à plein de livres, puis ben, mes joueurs n'investissent pas tout ce temps-là, puis cet effort-là. Est-ce que tu m'as le cave?
Alors, si tu poses la question.
La réponse est oui.
Voilà.
Mais en fait, ce que lui propose, c'est que les maîtres de jeu, en fait, comme une sorte de vieux sage, d'érudit, vont tirer. Ça fait partie de l'expérience d'être un maître de jeu, toute cette recherche-là, cette étude. Comme si les maîtres de jeu étaient un peu comme Gandalf là, quand il va étudier.
Donc, ça, il prend, 15 ans pour se rendre compte que la bague que l'autre a trouvée, fucking 50 ans avant, c'était l'anneau unique. Là.
Mais son point, c'est que l'expérience de maître de jeu, c'est en grande partie ça. C'est d'être dans ton caveau poussiéreux, là, à la lumière de la chandelle, à éplucher des livres obscurs qui ne vont jamais voir la table de jeu.
Non, c'est ça, c'est comme...
En-dessous de mon banc, non, il n'y a pas d'électricité.
Les rénaux, ça n'a pas bien noté.
Je coupe un fil, j'aurais pas dit. Parce que pour les joueurs, leur fantaisie à la table n'est pas la même. Le maître de jeu va étudier plein de concepts, d'idées, d'histoires, d'inspirations, puis concrétiser ça à la table pour offrir quelque chose. Mais les joueurs, eux autres, vont souvent retirer leur... C'est quoi les moments où on crie puis on a du fun autour de la table? C'est quand on se bat contre le dragon, puis là, ça va mal virer. On est proche de la fin, mais nous autres aussi, on est proche de la fin. Il reste 5 points de vie, puis là...
Quand Dan accroche sa bière, puis elle se vide sur la table.
Sur la table.
Puis... C'est une référence à l'épisode 0 de Dragon
Quest. Oui, c'est ça, quand même. Hein?
Mais tu sais, ce moment-là, dans un jeu de rôle où...
un très loin retour.
Oui, c'est ça.
101 épisode.
C'est une inside joke.
Après, on est rendu vu et on ne boit plus de la bière en enregistrant.
Voilà. On commence à 11h le matin.
Ça nous aurait dû dire.
Mais...
Oui.
C'est ces moments-là de jeu où, par exemple, la victoire va tenir à une utilisation judicieuse des habiletés des personnages avec une idée brillante d'un des joueurs combinée avec un lancer d'un des 20 qui va donner un 20 naturel. Puis là, oh my God! On crie tout, le fun est pogné. Puis on se raconte cette histoire-là dans les jours, dans les semaines qui suivent. La synergie d'un joueur, je pense qu'elle se trouve.
Dans les années qui suivent,
des fois, yeah. C'est selon la situation. Mais je pense que la fantaisie des joueurs, c'est vraiment ça. Mais on va jouer le roleplay, on va jouer toutes les procédures qui vont entourer le jeu, mais qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle pas les... On a voyagé pendant...
C'est les moments.
Fait que la fantaisie, pour au même endroit, c'est créer une asymétrie, mais on retire tout un... Il y a un contrat social. Vous dites, moi, je vais avoir mon fun, vous allez avoir votre fun. Mm-hmm. Puis un n'existe pas sans l'autre. Fait que si c'est la vidéo-là, elle a résonné avec une perception que j'avais de mon groupe de jeu, tout ça. Je me suis dit, j'ai un peu le même sentiment quand je joue à des jeux vidéo, par exemple. Fait que je vais approcher un jeu comme Baldur's Gate avec un bagage, avec des attentes, avec une expérience de game design, des choses comme ça qui vont être différentes de d'autres joueurs, peut-être. Puis on va peut-être pas aller retirer la même chose, notre expérience de jeu. On va quand même avoir du fun à jouer. Mais je me suis dit, mais c'est une causeuse à avoir avec mes deux buddies d'Ivan Quest. Mm-hmm. Ça serait quoi, selon vous, les fantaisies fondamentales qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo? Puis est-ce qu'il existe des écarts de fantaisie dans les amateurs d'un même style de jeu, par exemple?
Mm-hmm. Ben, en fait, je pense que la question remonte même un niveau avant ça. Puis parce que c'est quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose de très vieillir, genre là-dedans comme question. Parce que tu te poses pas vraiment... Quand t'es jeune, ton temps est pleinement disponible à enjoy les choses que tu fais, à juste découvrir d'autres choses, à prendre plein de temps à faire des choses. Puis là, tu te rends compte en vieillissant qu'il y a peut-être des choses que tu retirais une certaine satisfaction que tu retrouves plus maintenant. Puis là, t'es juste comme en train de dire, OK, tu te questionnes plus bref sur qu'est-ce que t'aimes, pourquoi t'aimes quelque chose, qu'est-ce que t'en retires, est-ce que ça vaut l'investissement, l'énergie, un peu ce que Runehammer disait. C'est quelque chose que j'ai quand même, passé beaucoup de temps à réfléchir, pas de cet angle-là exactement, mais qui rejoint beaucoup des réflexions que j'ai eues justement sur la culpabilité qu'on ressent à s'investir dans certaines choses ou à, tu sais, juste comme tu disais, le nombre de livres de donjons, de jeux de rôle que tu achètes puis que tu consommes sans jouer. Puis là, t'es juste comme, OK, pourquoi j'achète autant de sticks de livres puis je joue pas, ou de jeux de société, puis que je joue pas tellement. Puis il y a différentes façons, je pense, de réagir à ça, avant même de parler des core fantasies, mais c'est juste l'idée de dire, c'est quoi le hobby? C'est quoi que je cherche à obtenir une satisfaction? Comme exemple, c'est juste dans ma bibliothèque ici, j'ai des books de RPG, je ne joue à aucun RPG right now, mais j'ai une satisfaction à explorer le game design que quelqu'un a fait. Fait que le côté du DM, ben moi, c'est le côté game design que je trouve comme, oh, OK, j'aime l'explorer, même si je ne joue pas au jeu, de voir comment les designers tackle différents problèmes. Je trouve qu'il y a quelque chose que ça m'apporte ça. Puis parce que justement, tu te dis à un moment donné, pourquoi je le fais si je ne l'utilise pas? T'es comme, oh non, wait, attends une minute. Ce que j'aime de ça, c'est pas juste de jouer. Ou c'est peut-être même moins de jouer que de préparer ta game comme DM, que d'explorer les systèmes, que de regarder comment les gens engagent avec... Puis c'est là le mot-clé que je vais aller chercher, en fait, c'est le hobby. C'est quoi le hobby? T'sais? Puis le hobby, est-ce que c'est les jeux de rôle at large? Est-ce que c'est la collection? Ou est-ce que c'est le game design? Bref, je pense que ça part de là, fondamentalement, de mon côté. C'est de comprendre vraiment ce qu'on veut aller chercher avant même le jeu lui-même. T'sais. Donc, je remonte vraiment loin, là, mais...
Mais c'est intéressant. Mm-hmm. Puis ce que ça me fait réfléchir aussi au fait que je pense que tu ne deviens pas... Mettons, tu te limites à un seul système, puis je reprends Donjon Dragon, par exemple. Ouais. Si tu as joué juste à la 5e édition, là, parce que c'est la, l'édition qu'on bâche, right?
Je m'exclure de ces propos. D'accord.
Non, non, mais juste de façon générale, là, c'est le...
Ouais, c'est le bouc émissaire.
C'est le bouc émissaire.
Ah, oui, 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 je comprends.
Si tu connais juste ça, puis tu ne fais que vivre dans cet univers-là, est-ce que tu es le meilleur maître de jeu que tu peux être? Si tu n'as pas été voir ce qui se fait ailleurs... Fait,
mais est-ce que ton souhait, ton hobby, ta satisfaction, c'est de devenir le meilleur maître de jeu que tu peux être?
Est-ce que, OK. Est-ce que le meilleur pianiste de jazz, c'est celui qui n'a jamais écouté d'autres musiques que du jazz dans sa vie? Ou si tu vas voir ailleurs ce qui se fait, tu reviens chez vous avec plus de connaissances?
Je pense pas que ça peut être contesté, ce que tu dis, dans le sens que pour être le meilleur jeu de rôle que tu fais, il faut que tu t'explores une panoplie de systèmes, voir une panoplie de trucs. Mais est-ce que le hobby, le souhait de celui qui est un DM juste de 5e édition, c'est d'être le meilleur DM? Ou c'est juste de faire comme « je veux jouer une game avec mes chums de 5e édition ».
Effectivement, bon point.
Fait que c'est
bon
là que point. C'est plus fondamentalement qu'est-ce que tu vas en obtenir. Mais là, on revient à ton point de core fantasy.
Yep.
C'est quoi la core fantasy de quelqu'un qui fait juste du 5e? Probablement de passer un bon moment avec ses chums, low friction, c'est confortable. C'est d'aller chercher du confort.
C'est un peu ça. Puis, tu sais, ça reste... C'est pas une question que je me suis beaucoup posée là, sur comme pourquoi telle affaire ou telle affaire, je l'enjoy ou je l'enjoy pas. Puis, tu sais, pourquoi je DM des games de 5E, c'est que, genre, les personnes avec qui j'ai le goût de jouer, ils connaissent le système, puis ça va être plus facile d'embarquer dans quelque chose qu'ils connaissent que d'essayer de remonter puis de repartir à zéro. Ben, je sais qu'il y a des gens avec qui je joue que je leur dirais, on sort un nouveau système, là. J'ai peur, tu sais. Juste comme la friction de changer de modèle. Ouais. Parce que, tu sais, mettons qu'on parle dans le... Restons dans le fantastique, tu sais. Moi, j'ai beaucoup plus aimé le système qui avait été amené par Star Wars, là,
ouais.
Republic, tout ça, qui ont fait avec Terranoth. Puis là, j'oublie la compagnie, c'est qui...
Fantasy Flight.
Ouais. Merci.
Ils prennent le même système dans Heroes of Terranoth aussi.
Même système. Huh. Puis en fait, même les dés sont beaucoup plus clairs. On se servait des dés de Terranoth pour jouer à Star Wars parce que les symboles étaient plus clairs dessus. Fait que c'est le même système narratif avec des dés qui ont des symboles qui font que je sais quelque chose, je peux réussir, je peux échouer, mais je peux réussir avec un avantage, échouer avec un désavantage ou même faire de quoi de critique, réussite, critique, échec.
Right.
Bref, t'as comme c'est pas juste je roule un dé, oui ou non, tu sais. Puis ce système-là, je le trouve beaucoup plus intéressant quand tu veux raconter une histoire. Puis moi, comme DM, j'aime raconter une histoire.
Ben voilà.
Mais je peux pas y aller vers ce système-là parce que je sais que j'ai des joueurs comme avec qui je veux jouer que je perdrai.
Ben justement, là, je pense que c'est le clash entre... on explose un peu la discussion, oui, mais peu importe. Mais c'est la core fantasy, genre... est moins importante que la friction de « on veut jouer ensemble ».
Mm-hmm.
Fait que là, c'est juste comme non, tout ce qu'on veut, c'est avoir un moment ensemble.
Mais c'est ça, fait que c'est une activité sociale. Ouais. C'est pas tant axé sur la mécanique ou les règles ou le système.
Mais je pense que c'est quelque chose que les gens qui nous écoutent et que nous, à force de jaser, on a remarqué. Jeff et moi, typiquement dans nos hobbies, on est beaucoup plus curieux de tout ce qui se fait d'autre que de revisiter la même chose souvent. Que Dan est à l'aise.
Ouais.
Il est beaucoup plus à l'aise, justement, de rester dans un espace puis d'explorer au maximum cet espace-là. Tandis que nous, on est juste comme « OK, mais ça. »
Ouais.
Fait qu'il y a rien de surprenant là, dans ce que j'entends de la conversation so far. Je suis comme « on se connaît comme ça aussi. »
Mais moi, j'aime ça me laisser surprendre comme joueur. Mettons qu'on prend le même principe. Ouais. Puis quelqu'un me dit « Hey, je veux essayer ce système-là. » Je suis méga ouvert. Tu sais, c'est aussi ça.
Mm-hmm. OK. Ouais, c'est ça, c'est pas un empêche pas l'autre.
Non,
c'est pas une fermeture, c'est juste comme un j'ai pas le goût de me casser le bicycle aujourd'hui, allons faire ça. L'autre, c'est comme OK.
Ouais, c'est un peu ça. Je pense que tu mets un point intéressant. Tu sais, je parle de moi puis le gaming.
Ouais.
Pas envie de me casser le bicycle, ça fonctionne assez bien.
Ben, mon autre point que j'avais noté pour la conversation, c'était dans les réflexions justement que j'ai eu comme dans la dernière année, je disais beaucoup que genre. Je fais pas, c'est comme, c'est borderline de la thérapie, là, mais peu importe. point 10, c'est que je suis comme, je relaxe pas. Je n'ai pas d'activité dans laquelle je relaxe. C'est pas quelque chose que je fais. Genre, j'ai une difficulté à relaxer. Le monde va comme, ah, oh, mais tu joues à des jeux vidéo. Je game pas pour relaxer. Je game pour être challengé. Tu fais pas mégamane quand tu veux relaxer, calice, là. Tu sais, mais c'est ça, mon fun des jeux vidéo n'est pas relaxant. Fait que je suis comme, genre, arrêtez de me proposer ça. En fait, il fallait que moi, je réalise, faire comme, je ne game pas pour relaxer. Ce n'est pas une forme de relaxation. J'enjoy le hobby au bout. Je ne relaxe pas. Genre, most games qui m'intéressent, c'est zéro fucking relaxant. Genre, puis that's fine. C'est pas quelque chose que je peux faire pour relaxer.
Je suis à l'opposé de ça.
Ben, c'est ça, exact. Ben, c'est
ce que je disais tantôt. Hein? Mmh. Avec les livres.
Oui, on parlait de
ça. Voilà. On parlera éventuellement de littérature
ergodique.
Ergodique.
Ouais. C'est pas relaxant. Ce n'est pas fait pour relaxer.
Fait que ta fantaisie est ailleurs que dans
Ben, c'est ça, le souhait, ce que je souhaite retirer de cette activité-là, appelle-le la fantaisie, appelle-le la raison de le faire. Non, c'est pas la relaxation, genre, du tout. C'est un vouloir découvrir, vouloir explorer, vouloir voir le monde autrement, explorer la culture différemment, tout ça, là. C'est ce côté-là extrêmement exploratoire. T'sais.
Moi, j'ai trouvé que...
Mais en groupe, je cherche autre chose, ouais. Évidemment.
Mais toi, c'est
ça. J'ai une game de Gloomhaven depuis basically 3 ans. T'sais. Le jeu ne nous surprend plus particulièrement. Là,
mais il y a un aspect social quand même. Exact. On peut avoir plusieurs fantaisies.
Exact. Ben, c'est ça mon point. C'est que moi, c'est ça. On cherche des choses différentes à différents moments ou dans différents contextes.
Puis, si je reviens plus dans l'univers du jeu vidéo, moi, je trouve que j'ai trouvé que ma fantaisie fondamentale, elle change selon le type de jeu auquel je vais jouer. Fait que je vais être attiré vers certains types de jeux. Notons un RPG. Là, je vais aimer les jeux qui vont narratifs. Des fois, genre, le goût, je veux une histoire.
Ouais.
Puis j'ai eu un moment à l'automne, fin de l'été, quand j'ai fait Citizen Sleeper, en fait.
Ouais.
Avant de jouer à Citizen Sleeper, j'ai essayé de jouer à plein d'autres RPG, plein d'autres jeux. Puis là, pour finalement réaliser que qu'est-ce que je veux, c'est une histoire. Je veux pas jouer à un jeu vidéo. Fait que là, j'ai ressorti des livres, je me suis remis à lire. Fait que là, ça a comme comblé ce besoin-là. Puis là, après ça, j'ai trouvé Citizen Sleeper qui était un. Il y a très peu de jeux dans le jeu. Là. Il y a beaucoup plus de narratives que de jeux. Mais ça, c'est un point qui revient souvent quand je joue à des RPG. Il y a souvent trop de jeux dans mon RPG.
Ouais.
Il y a un jeu dans le chemin de mon histoire. je juste l'histoire.
Ah ben, on en avait parlé un petit peu aussi quand j'avais parlé de Book Walker puis de Sunday Gold. L'espèce de push and pull d'un jeu narratif. T'es comme, à quel moment est-ce que ton jeu narratif doit comprendre que c'est comme... Moi, je suis plus un jeu narratif. Il faut peut-être que je slack sur les mécaniques parce que je ralentis l'appréciation de mon histoire. Puis again, il n'y a pas de bonne réponse là, de grâce. Là. C'est vraiment au designer de trouver où ils mettent l'emphase ou s'ils peuvent utiliser les mécaniques pour appuyer la narrative. Là. Fait que c'est pas une question de tu devrais arrêter de mettre. Non, pas en tout. Là. Genre, c'est vraiment exploré pour l'histoire que tu comptes. Mais ça doit être une question que tu te poses.
Ouais. Puis j'ai vu ce clash-là en gaming avec Diablo 4. Ou honnêtement, moi j'ai skippé toute histoire. Là. Je sais pas ce qui se passe à Diablo 4. Okay.
C'est des démons.
Il y a des démons de plus en plus gros, puis un qui revient tout le temps, puis ça gosse de 18 fois.
100% mon expérience avec Diablo 3. Je l'ai fait genre 2 fois la campagne, j'ai aucune idée de ce qui se passe.
Mais Diablo 4 a des moments qui m'ont vraiment. Au début, j'ai essayé là, de lire l'histoire. Là. Puis à un moment donné, tu vas voir, tu rentres dans une hutte, puis là, c'est comme qu'est-ce qui s'est passé ici? Investiguons. Donc là, faut que tu aies le lit, faut que tu aies la table, faut que tu aies la bibliothèque. Là, tu trouves.
Tu vas voir le chandelier avec le moutarde dans la cuisine.
Puis là ça trigger l'histoire. C'est où ça dit, OK, ben, t'as trouvé, t'as été fetché tous les ingrédients de l'élixir.
T'as trigger l'histoire.
Fais l'élixir. Fait que là, t'es dans une hutte, tu dois aller d'un côté pour écraser les feuilles. Après ça, faut que t'ailles mélanger les feuilles de l'autre côté.
Parce que tout le monde sait que les joueurs de Diablo, là, ce qu'ils veulent, là, c'est cliquer partout dans une hutte.
Mais
genre, c'est ça le.
Ben, cliquer partout. C'est juste
possible. Ça, c'est faire.
Mais c'est juste faire X, tu sais.
Ouais.
Puis même pas dans un contexte stratégique de jeu, tu sais, tel power où il n'y a pas de combo, c'est juste tu vas devant un comptoir, tu fais X, tu vas devant l'autre comptoir, l'autre bord, tu fais X, tu vas devant le troisième comptoir, tu fais X, puis là, bravo, t'as fait la potion. Puis à ce moment-là, je fais comme, ben, ça, c'est inutile. Tout ça, c'est complètement inutile. Il aurait pu y avoir une place, je fais un X, puis là, ça m'écrit que ça l'a fait tout ça, puis je passe à autre chose. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à skipper, mais il y en avait tout le temps. Mais tu sais, je faisais juste courir les X, puis continuer l'histoire. Parce que ce que je cherchais dans Diablo, c'était moi, je veux me faire envahir par genre 1 million de monstres, que je vois plus rien, je vois plus mon personnage dans l'écran. Ouais,
c'est le tactical puzzle.
C'est ça. Là j'ai un combo qui va se déclencher, je vais faire des grosses rushs autour de moi, je vais me transformer en ours, je vais tuer tout le monde, puis ça, c'est cool.
That's it.
Mais il y avait des X, puis il fallait concocter des potions dans le chemin de mon expérience. Mais j'ai des amis qui ont fait toute l'histoire, mais l'histoire est vraiment cool, puis les dialogues sont vraiment nice, puis tout le voice acting est malade. Je suis comme, peut-être.
Ouais.
Mais je te crois.
Mais c'est pas
il y
ça.
Une friction en chemin qui m'empêchait de l'apprécier.
Tu parles de core fantasy. En game design, on parle de expérience essentielle. C'est un peu le même concept, sauf que c'est du côté du design du jeu. Quand tu designes le jeu, tu dois te rappeler c'est quoi, à tout moment, quand tu es en train de prendre une décision, quelle est l'expérience essentielle que je veux faire vivre à mes joueurs. Donc, est-ce que je veux, mettons, je suis en train de designer Sea of Thieves, qu'est-ce que je veux faire? Je veux que les gens, en groupe, vivent l'expérience d'être un pirate. Veulent se sentent comme un pirate. Fait que si je prends une décision dans le jeu...
Yes! C'est réussi!
Voilà. Je veux Dans le fond, Athlée Mode disait, ah, est-ce qu'on devrait faire que, ah, ben là, quand t'arrives sur la plage, est-ce qu'on devrait, genre, comment est-ce que tu fais pour trouver du butin? Ben, tu devrais creuser pour le trouver. Parce que le but, c'est de te sentir comme un pirate. Fait que je veux pas que ça soit genre un donjon. Puis je suis comme, non, faut que tu le déterres. Parce que ça vient appuyer la fantaisie d'être un pirate.
Ouais.
L'expérience essentielle, là, c'est pas toujours être quelque chose, mais c'est, tu dois comme identifier une phrase.
Le concept.
Exact. Ouais. Puis c'est quand, à mon avis, avec ce que tu parles, c'est quand ces trucs-là s'alignent pas. Genre, l'expérience essentielle de Diablo, dans ta tête, c'est battre des milliers d'ennemis et explorer des donjons générés de façon aléatoire. Là, genre, kind of. Là. Je sais que c'est pas vraiment un statement d'expérience essentielle, mais point is, c'est ça que tu vas chercher de Diablo. Quand c'est at odds avec tes attentes, la fantasy que tu veux combler avec ce jeu-là, mais là, tu fais comme, pourquoi je suis en train de vivre ça? Puis si quelqu'un d'autre est comme, moi, je veux vivre, j'adore l'univers de Diablo, donc ce que je vais aller chercher, c'est l'exploration de l'univers. Puis oui, il y a des donjons à l'épée du monde, mais lui, il va pour les deux ingrédients. Et lui, il engage ça, puis il est content. Mais toi, c'est à toi, parce que c'est comme, dans Diablo 2, l'histoire. Là. Arrivé au début du chapitre, puis le reste du temps, c'était des dialogues que tu skippais, puis tu pétais des ennemis. Il n'y avait rien d'autre. Puis t'es comme, hop, c'est pas ça que je veux. Fait qu'au niveau du jeu vidéo, je pense qu'il y a ça. Genre, il y a cette dichotomie-là qui est à considérer. Ouais, c'est ça.
Je me faisais aussi la réflexion que les catégories des jeux nuisent à ça, des fois.
Épisode 27 de La Causeuse, le 30 octobre 2017. On a discuté des classifications des jeux par genre.
Mais c'est un sujet qui revient souvent. On est...
Oh oui, mais c'est... Mais
on n'aime pas ça, les classifications actuelles, je pense.
Mais surtout, les jeux vidéo, en fait, ont un problème de classification, tout simplement. Puis je pense que dans... En fait, exemple, je pense qu'il y a des façons de les classer qui ont du sens. Là, mais si on parle de first-person shooter...
Oui, c'est ça.
Mais des fois, ça ils vont dire un jeu de tir à la troisième personne, coopératif,
ouais.
Ça vient toucher quelque chose, je pense que les gens vont... Moi, j'aime ça.
Ouais.
Quand on va le faire ensemble, puis on va jouer en équipe, on va réussir en équipe à surmonter les obstacles. T'sais. Je pense que ça, c'est une partie plus importante que
first-person
shooter, ou cette dimension-là qui...
C'est ça, ben, ça prend des définitions qui sont plus larges. Mm-hmm. Ben, c'est plus des tags, là, des adjectifs, justement, qui viennent compléter le genre, parce que sinon, first-person shooter, t'es comme, OK, fait que t'inclus Portal avec Call of Duty. C'est le même genre, ça.
Même chose.
Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Fait que c'est pour ça que on a un problème avec les jeux là, fondamentalement. Mais même si on le pousse un peu plus loin, effectivement, là, si tu me dis roguelike, survival, crafting. Je vais faire comme, peux-tu me crisser ça au vidange, s'il te plaît, puis jamais monter ton crisse de jeu. Là. Genre, c'est comme, je débarque immédiatement. Il y a comme des. Il y a des buzzwords que je suis comme, OK, je sais que ça ne me concerne pas. T'sais. Mais
ça, c'est intéressant. C'est quoi? Mettons, on prend un jeu comme ça. Là. Prends Minecraft.
Ouais.
Okay, donc, on va aller à la base du survival crafting roguelike. Là.
Ouais, puis, en plus, tu me dis ça, puis j'aime ça.
Oui, mais.
Minecraft, c'est bon. Genre, j'apprécie.
Pourquoi on aime Minecraft?
OK, ben la fantasy. Ouais, ben c'est ça.
C'est pas l'histoire.
Ben, pour toi, peut-être. Non, mais.
Tu sais, si tu l'inventes. Et puis, bon, les graphiques, là, c'est correct. Là, ça a un attrait.
Ça a son charme. Hein?
Je pense pas que ça a un attrait durable dans le temps. Là. T'as fait le tour.
Non. En fait, je pense que c'est un bon exemple Minecraft parce que plein de gens jouent pour plein de raisons différentes. Je peux répondre pour moi, mais ça a plus ou moins d'importance. Right? Tout le monde joue pour les raisons qu'il joue. Moi, c'est le... On va improviser à ce qui nous arrive. C'est le côté « on doit improviser ». C'est le côté justement, OK, j'explore, oups, tu tombes sur une caverne, oups, je vais réussir à m'en sortir. Bon, c'est le réagir à ce qui arrive.
Moi, j'aurais dit c'est le côté sandbox. C'est comme mais tu donnes ton propre objectif.
Oh, mais
je vois la grosse montagne là-bas, on va aller explorer la grosse montagne là-bas, il y a sûrement quelque chose. Puis là, tu trouves une crevasse, puis tu descends dans la crevasse. J'ai vu de la lave, je vais descendre jusqu'à la lave, il y a peut-être des diamants.
Ouais, c'est le gameplay émergent, c'est ce qui va arriver, right, que personne ne pouvait prévoir, même pas le designer. Oui, c'est ça. Ben, c'est exact. C'en est un, mais il y en a pour qui ça va être construire, évidemment, là, dans le cas de Minecraft. Il y en a qui ça va être d'optimiser, créer des systèmes. S'il y a un jeu, mettons, qui est difficile à mettre en boîte, là, c'est bien Minecraft. Là. Ouais, non.
Oui. Mais je pense qu'il est difficile à mettre en boîte.
Pourtant, quand
c'est
de boîte qui est dans ce jeu-là.
mais il est pertinent pour la discussion parce que
absolument.
Tout le monde joue à Minecraft. Puis tout le monde joue pour la même raison. Il y en a qui vont construire des usines, je sais pas comment dire ça, des machines.
Exactement, les redstone. Okay. Mais c'est pourquoi je ramenais justement les classifications qu'on avait déjà discutées, le first person, le third person, le real-time strategy, etc. L'espèce de manque de pertinence de ça, c'est qu'on voit quand même avec différents joueurs, genres de joueurs qui sont venus rejoindre l'espace, on a eu le droit aux Cozy Games. Puis eux, soudainement, sont dans une... Tu sais, il y a autant de débats là, sur la définition d'un cozy game parce que les gens pensent à différentes choses. T'sais. C'est un running gag avec des amis que, justement, Diablo est un cozy game, là, dans le sens que, tu sais, c'est...
T'as pas besoin de réfléchir.
Exact, les sons sont satisfaisants, tu cliques, tu peux comme te désengager le cerveau puis juste go with it. Je suis comme, ah, ben, ça correspond à certains critères que tout le monde va s'entendre du cozy game. Fait que, bon, la définition sur le débat s'applique quand même. Le débat sur la définition s'applique quand même, mais au moins, là, on est avec un jeu qui part d'une émotion, d'une fantaisie, de vivre quelque chose de cozy, de pas se stresser, de prendre... Et voilà, fait que là on est plus en train de coller l'attente, le sentiment, l'émotion expected d'un jeu avec son titre de catégorie. C'est comme, OK, je veux pas me stresser, je veux avoir un bon moment, je veux sentir aucune pression. Cozy games. Non, OK, ça a du sens. Pas mal plus que First Person Shooter. Peut-être en train de... Jouer à Portal. Non. Ou Power Wash Simulator, I guess.
Moi, je ne rentre pas beaucoup dans les shooters en ligne. Il y a tout le temps comme les modes. Il y avait des Battle Royale. Il y a un thrill au Battle Royale. Quand tu t'approches de la fin, tu vois les nombres de joueurs qui restent, que ce soit Fortnite, que ce soit...
Trop stressant pour moi.
PUBG, Warzone.
Warzone, c'est ça. T'sais, mais il y a un thrill qui est incroyable quand tu t'approches de la fin. Là, je veux dire, il suffit juste dans la maison chez nous pour entendre mon gars qui s'énerve avec ses amis et qui crie dans le micro sa console en bas parce qu'ils sont sur le bord de faire un top 1.
Oui, mais ça crée...
Il y a une émotion là, à aller chercher. Ou même les extraction shooters. Où là, c'est le contraire. Tu veux pas être le dernier à gagner. Tu veux réussir à te sauver avec le loot que tu as eu. Bon, ben, la dernière
prenons ça. Prenons le Battle Royale puis le extraction shooter. Les caractéristiques... que le joueur...
Mécaniquement, c'est le sens.
Oui, mais c'est ça. Oublions mécaniquement. Mais c'est quoi la fantaisie? Qu'est-ce que les joueurs vont aller retirer de ça?
Mais c'est ça, moi, j'allais dire, t'as aussi l'espèce, appelons ça la contre-fantaisie. Qu'est-ce qui fait, moi, qu'un Battle Royale, j'ai joué comme trois fois à PUBG, là, puis c'était avec des amis, là, justement, parce qu'ils jouaient beaucoup, puis je suis comme, j'ai le goût de jouer avec vous autres parce que je vous vois pas souvent, puis je m'ennuie. Fuck, pour moi, c'est trop stressant. Tu sais, je comme...
Ah, mais c'est ça. Fait que, tu sais, ceux qui aiment le Battle Royale, en fait, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est performer. Ouais. C'est come out on top.
Ben oui,
puis avoir des. Puis que leurs actions aient des. Il y a des stakes, il y a des enjeux.
Oh oui, c'est ça.
Parce que les enjeux grimpent tout le long de la game, puis là, t'es au maximum, puis quand tu gagnes, ben justement, le triomphe est plus grand parce que les enjeux sont plus grands. Mm-hmm. T'es les derniers sur une centaine.
Ouais, mais il y a un thrill de outsmart. Tu sais, quand t'es un contre un, c'est la fin, c'est les deux derniers dans un sur 100 joueurs, puis là, tu outsmart le dernier, puis t'as la victoire.
Mm-hmm. C'est ça. Puis, cool. De l'autre bord, le extraction shooter a le même côté de outsmart parce que tu vas rencontrer des joueurs humains, mais ça c'est de la tension, c'est de la pression. C'est pas un build-up, c'est une tension.
Ouais, c'est comme survivre malgré que les odds soient contre toi là.
Ouais, exactement. Ça, c'est tu te mets littéralement dans une position où tout peut te tuer, où t'es à risque de tout. Puis que la tension est constante, tu sais jamais quand il va y avoir quelqu'un. Fait que c'est vraiment comme un. C'est ça, c'est du stress. C'est ça. Le mot exact est tension. Genre, tu veux vivre avec une tension quand tu vas jouer. Pis c'est ça, puis c'est des trucs que tu n'avais pas typiquement dans les jeux parce que la plupart des jeux ont vraiment été dans des directions où les enjeux sont bas parce que la punition de perdre est rendue basse pour moins frustrer, pour diminuer la frustration. Mais ces genres de jeux-là sont une réaction naturelle à ce design trend-là que le gaming moderne là, a nourri, puis pour des bonnes raisons. Là, ça rend le gaming moins frustrant overall. Mais comment tu vas chercher cette tension-là de quand tu jouais à Mega Man, ou mettons, prendre un autre jeu là, que c'est plus linéaire, mettons un contrat, tu sais, que ah ben là j'ai deux vies, puis j'ai tant de tableaux à faire, puis je suis rendu au dernier, puis yes, j'ai réussi à le faire au complet, sinon il faut que je recommence au début. La pénalité était assez importante. Tu sais. On fait plus ça à cette heure. Tu sais. Fait que. Et comment est-ce qu'on va les rechercher? Ben, ces genres de jeux-là ont rapporté ça aux gamers modernes.
Mais j'allais dire que c'est beau intéressant parce que différentes fantaisies, différentes choses recherchées, différents types de jeux aussi. Puis...
Ouais.
Mais tu sais, ce que je me demande, c'est est-ce que si on est capable d'identifier ça, en fait, j'ai un amateur de Warzone qui aime ce trip-là, puis ce challenge-là, puis y a-tu d'autres jeux que cet amateur de Warzone-là pourrait découvrir, d'autres styles de jeux qu'il pourrait découvrir qui viendraient reproduire un peu ce rush d'adrénaline?
Pas juste t'sais. Des Battle Royale.
C'est ça. Ouais. Est-ce que de jouer à un Resident Evil ou jouer à un Silent Hill peut aller rechercher?
Tu me fais penser, il y a pour les livres, sais, je vois beaucoup de plateformes commencer à essayer de se positionner comme des alternatives à Goodreads.
Mm-hmm.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des plateformes pour cataloguer tes lectures puis trouver des recommandations par rapport à tes livres.
Socialiser un peu autour de
sure, ça. Mais c'est ça. Mais mostly, tu sais, c'est comme tu catalogues, tu as des recommandations, comme ça, tu vois un peu continuer à trouver d'autres livres, bref, trouver d'autres choses à lire par rapport à ce que tu as déjà identifié que tu aimais. Bon, c'est principalement le comment eux présentent les plateformes. Mais il y a Storygraph, qui est une autre plateforme qui, eux autres, par contre, se présentent beaucoup plus alentour des tags que tu as sur les livres. Mm. Fait que là, justement, d'identifier des cozy, des excitants, des progressives, des... Puis là, hop, mettre ces tags-là ensemble. Puis là, de regarder la juxtaposition de tous ces tags-là, si on avait quelque chose comme ça pour les jeux, je pense que c'est un peu ça que tu parles.
Mm-hmm.
Justement, si tu peux faire comme, OK, voici ce que Warzone a comme tags. Genre. Puis là, on parle pas de Battle Royale comme tag. T'sais, on parle de, justement, high stakes, pressure, multiplayer, PVP. Tu commences à rajouter des tags comme ça, puis là, oups, tu regardes quels jeux sont dans la même catégorie, indépendamment de leur genre. Je pense qu'il y aura des trucs intéressants qui ressortent de ça.
Je suis persuadé. Je pense que ça reste un concept personnel quand même. Chacun a son approche ou sa vision ou sa fantaisie fondamentale derrière tout ça.
Mm-hmm.
Puis nos opinions, ils diffèrent sûrement des gens qui nous écoutent.
Non.
On aimerait ça vous entendre, on est curieux. Fait que qu'est-ce qui trigger votre cerveau reptilien dans le gaming? Êtes-vous d'accord avec ce qu'on raconte ou est-ce qu'on est dans le champ et vous avez d'autres opinions? On peut jaser sur Facebook.
Ah, merci Dan.
Hein? C'est toi ça.
Hein?
Fait que c'est ça. Fait que, si vous avez des opinions différentes, des idées ou des idées, des concepts à ajouter à toute cette discussion.
Si vous connaissez des plateformes, en fait, qui font un peu ce qu'on parlait, tu sais, qui trouvent une façon de suggérer des jeux, parce que
Goodreads Gaming.
Le Storygraph du gaming.
Le Storygraph.
Parce que Steam le fait un petit peu avec les tags, il y a comme un espace, mais tu sais, quelque chose qui est plus. Que c'est plus ça l'objectif, dans le fond. De...
Ouais, détaché peut-être du magasin.
Ouais, c'est
jeux.
Ça, exactement. Ouais. C'est ça. All right. Bon, ben, ciao,
gars. À la prochaine.
Yep. Ah, bientôt, là. On va l'avoir. Et 3, 4. Wow!